应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine, notre toile est secouée par la caméra nerveuse de Amé et Ekwe et leur film Les Derniers Parisiens. Et je suis en compagnie des yeux et de la voix d'Alice qui nous touchera également deux mots de 20th Century Woman. Bonjour à toi Alice.
Bonjour Rémi.
Et bien sûr, en fin d'émission, nous retrouverons Pierre qui nous parlera cette semaine de Last Week Tonight with John Oliver, petite entorse à sa chronique sur les séries, mais on n'en est pas si loin. Mais pour l'instant, nous nous plongeons donc dans Pigalle à la suite de Reda Kateb pour Les Derniers Parisiens. L'acteur y incarne Nas, trentenaire à lunettes noires et manteau de cuir, tout juste sorti de prison et travaillant en attendant de trouver mieux dans le bar de son grand frère Areski, homme calme ayant réussi à fuir les barres d'immeubles où ils sont nés pour se construire une vie tranquille dans Paris. Nas voit peu à peu dans ce bar une opportunité de se lancer, d'entreprendre quelque chose, et va essayer d'en faire une boîte à la mode, mais Pigalle est un monde qui change et peut-être qui s'éteint. Alors avant d'en dire plus sur ce film, Alice, quel est ton avis sur Ces Derniers Parisiens ?
Il m'a un peu énervé à certains moments par le côté très cru et macho, mais qui en fait est sans cesse temporisé par plein d'autres moments du film. J'ai beaucoup aimé la façon de filmer un peu près du trottoir, Pigalle de jour, et donc pas ce Pigalle du Moulin Rouge et des boîtes de nuit, même si c'est ce dont le film parle. Et bon, je l'ai trouvé peut-être un peu trop documentaire pour un film de fiction qui se perd un peu en une multitude d'intrigues.
D'accord. Bah alors personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce film et je suis d'accord avec ce que tu dis, avec cette caméra près du trottoir. C'est exactement ça. C'est même plus une caméra à l'épaule, c'est une caméra presque au pied d'une certaine façon et on marche avec elle. Et l'intelligence qui consiste à filmer Pigalle de jour, et ça permet de montrer véritablement les êtres humains qui y évoluent plutôt que juste une ambiance artificielle qui aurait été un petit peu une facilité en termes de film, de scénario, etc. Et j'aime vraiment beaucoup cette mise à jour, mise au goût du jour du film noir, de toute la tradition du film noir français, Melville, etc. sont pas très loin. On entend aussi beaucoup parler de Mean Streets dans la critique. Et il y a toute cette tradition qui est ingurgitée par les réalisateurs, dont il faut rappeler qu'ils sont un duo de rappeurs qui se sont mis au cinéma. Et pour donner ce film qui reprend un certain nombre de codes, bon alors codes esthétiques, on peut peut-être parler de l'esthétique tout de suite parce qu'elle est quand même assez frappante, avec alors certaines scènes de nuit quand même au début, et de toute façon toujours des contrastes assez poussés, des ombres, des lumières extrêmement contrastées, et puis cette musique qui est assez centrale dans le film, musique électro rythmée, sans être entraînante, parce qu'il y a toujours une espèce d'ombre dessus, une espèce de fatigue un petit peu, qui a quelque chose de gracieux, mais qui donne tout de suite le ton du film.
Oui, tout à fait, il y a un côté un peu... c'est une musique très rythmée, mais en même temps un peu fatiguée, et pas fatigante du tout, enfin sans jouer sur les mots, mais elle est très bien incorporée au film, mais elle a un côté très... à rebours aussi de ce qu'on pourrait attendre d'un film... réalisé par deux rappeurs, c'est-à-dire que c'est pas du tout du gros rap ou de la trap, c'est vraiment une musique électro d'ambiance et qui illustre très bien, oui, cette ambiance d'un Pigalle fatigué et très qui voit peut-être pas trop ce qu'il y a demain.
Oui, et justement, alors tu embrayes sur le propos social entre guillemets du film, et là aussi c'est un peu la même dynamique qu'à l'œuvre. On s'attendrait, connaissant le duo Draper, à quelque chose d'assez agressif socialement, parce qu'ils ont quand même des textes extrêmement engagés, extrêmement forts. Et là justement, c'est un constat un petit peu nostalgique et beaucoup plus nuancé que ce à quoi on pourrait s'attendre qu'il y a dans ce film. Alors ça dresse le tableau d'une forme de fatalité dans laquelle les personnages sont emportés. Ils sont de toute façon trop vieux pour réussir ce qu'ils essayent de faire. Le grand frère a 45-50 ans, le petit frère en a une bonne trentaine, et de toute façon leur vie, ou en tout cas la vie à laquelle ils se destinent, est derrière eux.
Moi j'ai été aussi frappée par le fait que finalement les amis de Nas, donc qui eux sont pas allés en prison et qui sont restés à Pigalle, ont l'air d'avoir plutôt réussi. Il y en a, même s'il y a une déchéance, il y en a un qui a réussi à tenir une boutique de vêtements de marque et de baskets, qui bien sûr est obligé de s'en défaire par manque d'argent, par manque de clientèle. Mais en même temps, c'est pas du tout quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans de petit trafic et qui vit au jour le jour. C'est des gens qui en même temps ont construit leur vie. Son frère aussi, il s'est fait un nom, il s'est fait respecter dans le quartier. Donc il y a aussi une forme de douceur, je trouve, dans le destin de ces personnages, même si on sent qu'il est très dur et très triste.
Mais la dépossession, justement, est peut-être d'autant plus cruelle qu'elle est douce. Je lisais cette phrase de l'Humanité qui s'amuse à écrire que le capital décapite la capitale à propos de ce film, et au-delà du jeu de mots, il y a vraiment, à travers tout le film, cette mécanique de l'argent qui rachète tout et uniformise tout ce quartier, supprime les têtes qui dépassent, mais aussi du coup les individus, quitte à verser dans quelque chose qui relève de l'arnaque, et c'est l'un des ressorts du film à la fin qu'on dévoilera peut-être pas ici. C'est l'argent aussi qui pourrit d'une certaine façon la relation entre les frères, parce qu'on ne saura jamais exactement si le grand frère n'a pas réussi à s'installer grâce au trafic du petit frère. Enfin, c'est quelque chose d'assez flou. Et finalement, c'est un tableau des rapports humains pervertis par l'argent et d'un petit quartier dépossédé de son existence au niveau du trottoir par l'irruption de l'argent et de toute la gentrification d'un centre-ville parisien que veulent montrer les réalisateurs.
Oui, et puis il y a une grande subtilité, je trouve, dans la question de l'argent, au sens où c'est en quelque sorte un argent propre, donc qui détruit tout ce quartier. C'est plus l'argent des magouilles, des trafics, etc., de la rue. C'est un argent qui vient de sponsors de Dubaï ou bien de grandes chaînes de fast-food nationales et internationales. Et c'est par là qu'arrive le mal, et en même temps, on n'a pas du tout une apologie du petit trafic et du vol qui est fait, très loin de là. Et c'est vraiment une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est à quel point il y a une sorte de vision de la gentrification comme phénomène généralisé qui arrive non seulement dans tous les quartiers de Paris, mais partout. Et en même temps, le côté... À Pigalle, ça prend la dimension de une cohabitation finalement entre des gens qui sont de plus en plus à la rue et des grandes enseignes qui ont pris la place et qui se sont mises autour du Moulin Rouge. Et j'ai trouvé ça même très très beau. Enfin, il le montre assez bien, toutes ces rues qui changent, où ces gens juste qui passent et qui se mélangent pas vraiment, ces flics qui sont sans cesse dans les rues. C'est vraiment très beau.
Oui, tout à fait. Et alors peut-être continuer, tu disais qu'il y a quand même quelques détails au milieu de ce tableau assez réussi qui énerve un petit peu, et on pourrait peut-être continuer là-dessus. Alors il y a aussi quelques trucs qui me gênent, enfin, j'ai l'impression qu'il y a surtout quelques effets de scénario dont on aurait pu se passer. Je m'interroge sur la place de Mélanie Laurent dans ce film, oui, où elle n'est pas d'une utilité fondamentale. D'un autre côté, c'est la seule touche féminine du film. Alors, est-ce que on essaye de nous dépeindre un monde qui effectivement est un monde d'hommes, ou est-ce que les réalisateurs n'ont pas réussi à trouver une place correcte à la femme dans ce tableau? C'est quelque chose que je vais peut-être pas me prononcer, mais en tout cas, je fais le constat que Mélanie Laurent n'est pas d'une utilité folle. Pareil, ces séquences où un SDF un peu fou apparaît au milieu du film, on ne sait pas exactement ce que ce fil rouge fait là, il y a quelques éléments comme ça qui gênent un peu, mais qui ne sont pas envahissants non plus.
Non, après Mélanie Laurent, moi je pencherais pour plutôt une peut-être une maladresse de la part des réalisateurs, enfin une un manque d'adresse en tout cas à faire intervenir une touche féminine justement, parce que le film commence sur une discussion extrêmement macho avec des blagues sexistes en boucle et on sent très bien que c'est pas du tout partagé par les réalisateurs, que la vision du film est pas du tout là.
Non, parce que les personnages qui tiennent ce discours se font d'ailleurs jeter du bar où ils sont. Oui.
Non, tout à fait. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelle place faite aux femmes, à part donc Mélanie Laurent, mais qui est en plus un objet de discorde total et dont finalement, à chaque fois qu'on la voit apparaître à l'écran, est très agaçante, je trouve, en tout cas.
Oui, un petit peu, oui. Mais à côté de ça, les acteurs masculins, et entre autres, en particulier même le duo de frères, Reda Kateb et Slimane Dazi, sont vraiment extrêmement... Il y a quelque chose de très très beau dans la rugosité et la pudeur dont ils témoignent, à l'image de tout le film d'ailleurs, hein, qui est vraiment construit sans aucune surenchère, sans faire appel non plus à la violence comme moteur du film, ni comme moteur de leur jeu. Et c'est peut-être ça, finalement, qui est très réussi dans la démarche et qui se retrouve dans le jeu de ces acteurs, Reda Kateb, qu'on avait déjà pu remarquer en d'autres occasions.
Oui, et puis il y avait ce risque que moi je craignais avant d'aller voir ce film, qui était de voir ce qu'on pourrait voir à Envoyé spécial sur France 2, c'est-à-dire des groupes de jeunes en bas des HLM en train de juste se hurler des choses et on a l'impression que soit tout est surjoué, soit ça n'a pas à être montré, ou en tout cas ça n'a pas d'intérêt esthétique ou cinématographique. Alors que là, c'est complètement évité. Et d'ailleurs, moi je ne savais pas du tout, mais donc une grande partie des acteurs sont des amateurs.
Oui.
Et ils font pas du tout preuve d'amateurisme, mais en même temps, il y a exactement cette spontanéité dans les sortes de joutes verbales qui sont un peu leur seule occupation. Joyeuse et qui est vraiment très réussie.
Oui, tout à fait. Oui, il y a. Mais finalement, tout rejoint une forme de justesse du portrait, tout simplement, et du message aussi, malgré les maladresses de réalisation qu'on peut aussi imputer au fait que c'est leur premier long et qu'ils sont pas du tout, ils ont pas du tout de formation de cinéaste. Mais malgré ça, donc, un film assez maîtrisé, il faut bien le dire, avec un message qui porte et une douce mélancolie qui n'est pas désagréable et qu'on vous encourage donc à aller voir, chers auditeurs. Il est en salle encore pour quelque temps à La Fourmi.